curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, faudra sans doute rappeler à la santé publique que la rentrée scolaire s'amorce au Québec. Parce que les directives... Parce qu'il y en manque, là, quand tu parles au directeur d'école, quand tu parles aux profs, aux parents, c'est très variable, là, principalement pour ce qui est du primaire et secondaire. Alors, la question, est-ce que les écoles sont prêtes à recevoir les élèves? Nathalie.
Bien, si on en croit les partis d'opposition au Québec et certains témoignages d'enseignants entre autres publiés dans Le Devoir, la réponse, c'est non. Et moi, je doute que la rentrée actuelle puisse être rodée ou, comment dire, puisse s'apparenter à du, tu sais, on dit du papier à musique, là, je cherche l'expression, là, mais enfin. Mais je dis ça parce que il y a encore plusieurs questions qui demeurent sans réponse, mais je ne comprends pas la conférence de presse qu'a faite le ministre de l'Éducation il y a quoi, le 11 août dernier. Et la santé publique, en passant, était partie prenante de cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'on a appris? Que le port du masque dans la classe ne serait pas obligatoire. On a appris qu'il n'y aurait plus de bulle de classe. Et on a appris que la pratique de certains sports parascolaires à haut risque allait peut-être commander le passeport vaccinal. Mais ça, c'est comme le mystère de Caramilk. On cherche encore ce que c'est un sport à haut risque dans le milieu scolaire. Et là, le ministre, aujourd'hui, nous dit, attendez, là, j'ai pas encore les consignes de la santé publique. Alors, de toute évidence, la santé publique ne comprend pas la dynamique du ministère d'Éducation. Parce que ce dont le ministère ou le réseau devrait agir a besoin, c'est de prévisibilité et de stabilité. Et là, la santé publique, là, regarde ça aller, puis la réponse est comme il est minuit moins une, là, puis ça presse. Alors, dans ce sens-là, est-ce que les écoles sont prêtes? Probablement que certaines, oui. D'autres non, mais je trouve qu'il y a trop de questions qui demeurent sans réponse pour affirmer effectivement que nos écoles sont prêtes.
Ah, je suis tellement d'accord. En fait, c'est tellement... Moi, ça me met hors de moi, cette question-là. Ça me fâche parce que c'est quand même pas si compliqué à planifier. Puis à prendre une décision 3 jours avant, ça va générer de la colère. Mais vraiment, ça va générer de la colère. Parce que imagine-toi, un professeur arrive, pas vacciné, attrape et positif à la COVID... La classe s'en va à la maison. Donc, quarantaine des enfants. Quarantaine des enfants, ça veut-tu dire aussi quarantaine des parents? S'ils sont double vaccinés, peut-être pas, mais là, je suis pas sûr d'avoir compris. Mais ça veut dire que tout le monde va retourner à la maison.
Parce que je pense qu'on connaît pas le protocole en cas d'éclosion.
Écoute, d'abord, ça veut dire peut-être, si c'est comme l'an passé, quarantaine des enfants, quarantaine des parents, parce que le professeur est pas vacciné. Mettons, une hypothèse, entre autres. Si, la même chose, si c'est un enfant qui est pas vacciné, tout le monde à la maison, est-ce que, par exemple, si c'est le professeur qui est pas vacciné, est-ce qu'il a le droit à congé de maladie? Est-ce qu'il va être payé au même pour rester à la maison pendant 14 jours? Fait que là, les autres professeurs qui sont vaccinés, eux autres, ils ont fait leur devoir de citoyen, ils sont vaccinés, ils sont au travail. L'autre serait, il a pas fait son devoir de citoyen, il n'est pas au travail, il est payé. Ben, expliquez-moi quelqu'un, parce que moi, ça me mettrait en colère. Puis ce qui me mettra en colère, c'est de voir que mon enfant revient à la maison, que moi, je suis obligé de rester à la maison, que j'ai peut-être des conséquences sur mon travail. S'il y a des frères et sœurs à la fratrie, peut-être aussi. Là, expliquez-nous. Ça presse.
Ouais, mais Luc, les enseignants vont être payés s'ils retournent à la maison, là, au même titre que les employés du réseau de la santé qui doivent se faire tester,
même si c'est eux qui ont attrapé la COVID puis ont refusé de se faire vacciner.
Ben, d'après moi, je vois pas...
Commission parlementaire cette semaine à Québec.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
Mais tu regarderas, c'est important, là, on a beaucoup parlé de la vaccination obligatoire des gens du réseau. Mais quand tu regardes le thème de la commission parlementaire, là, ça peut élargir vite à l'éducation. Il y a le chef libéral, Dominique Anglade, qui a dit incluer tous les gens qui sont en contact. Là.
Oui.
Mais je te dis, là, d'après moi, ça va pas se limiter au secteur de la santé.
Moi, je suis tellement d'accord. Il y a 3 choses qui peuvent garantir la santé dans les écoles. La vaccination obligatoire des professeurs, le passeport obligatoire des élèves et la ventilation. Là, il n'y en a aucune de ces 3-là qui est prévue. Ben, moi, j'ai très peur. J'ai très peur de ce qui s'en vient. Puis, je l'ai vécu cet été, camp de vacances, voisin, on lui dit, il y a des moniteurs qui n'étaient pas vaccinés, tout le monde reste à la maison. Ben là, c'est des parents qui lâchent leur travail. Ça passait l'an passé parce qu'on n'avait pas d'outils. Mais cette année, on a des outils.
Je suis d'accord. Mais tu vois, le ministre de l'Éducation a déclaré que c'est toujours pas combien d'enseignants sont vaccinés.
Non.
Bon, ça, il dit, selon lui, la proportion est très, très élevée. Mais ça veut dire quoi, très, très élevée? Un. Deuxièmement, ce qu'on ne veut pas, parce qu'il y a des affaires qu'on sait, qu'on ne veut pas, puis ce qu'on souhaite. Alors, ce qu'on veut pas, c'est revenir à l'enseignement à distance, des écoles qui sont aux prises avec des éclosions en répétition. Puis ce qu'on veut, c'est une année scolaire sous signe de la stabilité. Moi, je trouve ça très triste. Après un an de pandémie, c'est comme si on revenait à la case départ dans le débat qui nous occupe actuellement. Après un an de pandémie, il me semble que le protocole, puis le ministre en passant, il l'a dit il y a quoi maintenant, presque 10 jours, là, que les protocoles étaient en place dans les écoles, mais de toute évidence, ce n'est pas le cas. Il y a encore une fois, il y a un fossé monstre entre ce que le ministre dit et la réalité qui est vécue sur le terrain dans nos écoles. Je ne peux pas comprendre, puis c'est pas juste, là, c'est pas 10 élèves qui rentrent dans nos classes, c'est des milliers, là, des centaines de milliers d'élèves actuellement. Et d'enseignants qui se questionnent sur, OK, mais si telle situation arrive, on se comporte de quelle façon? Alors, le ministre a rapidement l'obligation de clarifier les zones d'ombre actuellement. Et l'expression que je cherchais, c'est roder comme du papier à musique.
Ouais, c'est ça.
Je doute que dans le contexte pandémique actuel où avec le Delta, la situation évalue à vitesse grand V, je doute, là, tu sais, qu'on ait les réponses à toutes nos questions.
Qu'on n'ait pas de réponse, d'accord, mais qu'on mette les questions sur la table. Puis moi, je m'attendais à voir ça au début du mois d'août, là, ou au plus tard, à la mi-août, tout réglé. Pas 3 jours avant.
Oui, mais par exemple, je partage tout à fait ton point de vue. La ventilation, on peut-tu parler de la ventilation?
Ben oui.
Ça a l'air que c'est pas encore réglé. Les détecteurs, là, les capteurs de CO2, bon, mais est-ce que nos écoles sont... Est-ce que toutes les écoles du Québec, les salles de classe sont dotées de capteurs de CO2? Oui ou non? C'est quoi le bilan actuellement? Et puis le ministre avait pris des engagements dans ce sens-là.
Puis sur le passeport vaccinal ou sanitaire... Pour des élèves, mettons, cégep, université. Le slacker qui est dans le fond de la classe, là. Que lui, il veut rien
savoir. Comment tu l'appelles?
Le slacker qui est dans le fond de la classe, là. Tu sais, qu'il a la misère à tenir son café quand il arrive le matin, là. Puis que lui, ben, il a pas, non, ça le dérange pas de se faire vacciner, mais il a pas eu le temps. OK? Mais c'est lui qui va déterminer le rythme de toute la classe.
Non, c'est pas possible.
Voyons,
quand
il boit, ça se peut pas. Je veux dire. Éclairez-nous quelqu'un, là. Éclairez-nous, là. Dites-nous, vous comprenez la situation. Dites-nous, vous la comprenez. Juste ça. Dites, prenez le micro, là, dans, on comprend la situation. On comprend la colère potentielle de tout le monde. S'il y a 40 élèves qui ont passé un an à la maison, qui reviennent en classe, puis qui sont obligés de retourner à la maison à cause de Monsieur Slacker.
Oui, mais on veut pas ça, là. On ne veut pas ça. Les parents, je pense que les parents ne tiendront pas le coup. Même chose pour les enfants. Mais tu vois, un autre élément qui est embêtant. Les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans là, qui ont crié « Hourra » lorsqu'ils ont appris qu'ils ne seraient pas obligés de porter le masque dans la classe. Il y en a eu des tonnes au Québec. Là,
oui.
Là on leur dit aujourd'hui « Hi, mon petit coco, pas certaine que tu vas... T'auras pas besoin de porter le masque en salle de classe. » Alors, tu vois, puis
cet élément-là,
oui.
Moi, à la limite, OK, on a appris que finalement, c'était 90% de taux de vaccination puis qu'il peut y avoir une diminution de l'efficacité du vaccin pour les infections mineures à long terme. On vous demande de porter le masque. Ce bout-là, je le comprends parce que c'est expliqué. On a une explication. C'est le reste qu'on n'a pas d'explication. Je me dis, c'est pas admissible.
Ouais, mais pourquoi c'est si compliqué la relation entre la santé publique et le ministère de l'Éducation?
Parce que ce sont, d'après moi, des scientifiques qui sont réunis à huis clos. Là. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur tour, puis eux déterminent. Mais tu sais, je pense pas que la situation en un mois et demi a tellement changé. Là, depuis les projections qu'on voit cet été, on le sait qu'il y a un variant, on sait quels sont les effets du variant. On le sait que le nombre de cas augmente, mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est que les hospitalisations partent pas en flèche, que les kids vont avoir la COVID peut-être, mais que finalement, ça va être assez limité comme effet. Moi, je suis pas hyper inquiet. Moi, ce qui me tue, c'est de pas savoir les protocoles comme parent.
C'est pas
de crainte pour mon enfant, c'est de me dire, OK, je fais quoi s'il y a une éclosion dans ça? Je lâche-tu mon travail?
Non, parce que c'est ça, l'affaire, Paul, c'est qu'on a tous pris conscience qu'avec la double vaccination, t'es censé avoir beaucoup moins d'effets ou pas d'effets du tout, sauf des personnes qui ont des problèmes.
Ouais.
Mais ça, c'est rassurant. Mais ce qui est pas rassurant, c'est que la santé publique semble vouloir adopter les mêmes protocoles, même s'il y a moins d'effets.
Mais la santé publique a pas été bien forte dans la question de la qualité de l'air. Rappelons-nous la confusion. Sur la gestion des masques, ça leur a pris du temps à se décider. Ils sont, souvent à la remorque. Les masques, moi, je...
Et donc, ils attendent une décision du premier ministre.
Non.
Et le premier ministre ne se prononce pas.
Mais non, le premier ministre va se tourner vers la santé publique pour avoir des réponses. C'est comme si le chien qui court après sa queue, là, on s'en sortira jamais. Mais clairement, le ministre est silencieux. Il devra sortir de son silence pour nous éclairer.
On s'arrête pour la pause. Au retour, le processus qui a conduit à la suspension sans salaire de Pascal Nadeau.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, quoi penser du processus qui a amené la suspension sans salaire de Pascal Nadeau par Radio-Canada? Luc?
Donc, maintenant, on commence à comprendre mieux, mais puis même si on n'a pas lu le rapport d'enquête, puis même s'il n'y a pas eu l'arbitrage, je pense que tout le monde a compris ce qui s'est passé. Donc, Mme Nadeau a eu des comportements qu'on pourrait associer à du dénigrement, mais pas suffisamment ciblés ou pas suffisamment en continu, puis pas suffisamment tout court, pour que ça débouche sur une plainte, une reconnaissance de harcèlement. Donc, voilà. Voilà la situation. C'est ça qu'il faut gérer. Est-ce que tous les journaux du Québec, toutes les radios du Québec vont devoir s'en mêler pour que Radio-Canada trouve la solution à ce problème grave? Il y a trois failles dans leur processus. Première faille, suspension automatique sans salaire. Alors là, la suspension automatique sans salaire, ça envoie un message fort, ça. Hein? Un message très fort. Là, après, il y a un début d'enquête. Elle reçoit deux paragraphes d'informations dans lesquels ça dit qu'elle n'est pas reconnue coupable de harcèlement et qu'il n'y a pas de blâme fort à son endroit. Mais c'est pas suffisant pour la direction. La direction ne veut pas donner d'excuses et veut qu'elle revienne au travail comme si de rien n'était. Ça, c'est la deuxième faille. C'est « Je te demande de... Tu es le visage de Radio-Canada. Je te demande d'être un leader avec tes employés. Je te demande d'être la représentante de l'entreprise. » D'être de bonne humeur, d'être souriante, mais il y a une plainte qui est en haut de ta tête, qui est attachée en haut de ta tête, puis qui pourrait te tomber sur la tête d'ici 2 ans, parce que c'est ça que ça prend pour le processus en arbitrage. Mais je te demande de faire comme si de rien n'était. Puis là, on se surprend qu'elle a dit non. Moi, si je reviens au travail, je veux des excuses. Vous me dites qu'il n'y a pas de reconnaissance de ma culpabilité. Au minimum, donnez-moi des excuses pour 2 choses. D'abord, pour que je reste saine, pour que je reste capable de faire mon travail, pour que je sois capable d'exercer mon rôle de leadership avec les employés. Au minimum, là, vous me dites, il s'est rien passé, on s'excuse, voici le mois de salaire qu'on t'a coupé et tu reviens au travail avec nos excuses. Non, le Radio-Canada dit, ben non, le processus, on l'a suivi, fait qu'on n'a pas besoin de s'excuser. Oui, mais si le processus n'est pas bon, puis si le processus ne reconnaît pas l'humanisme minimal dont tu devrais faire preuve, ben tu devrais t'excuser.
Ouais, un mot, moi, pour qualifier le processus, justement, qui a conduit à la suspension, au congédiement de Pascal Nadeau, c'est odieux. Tout d'abord, cette femme-là, actuellement, est victime d'une entreprise de salissage sur la place publique, sans qu'elle n'ait eu l'occasion d'exposer sa version des faits à son employeur. Deuxièmement, on parle d'une dénonciation anonyme qui a été faite au nom d'une tierce personne qui a conduit à toute cette saga qui dure maintenant depuis quoi? 1 semaine? Et là, Pascal Nadeau doit répondre par média ou par communiqué.
Mais là, il y a une bataille de chroniqueurs dans la presse. Là.
Aussi.
C'est un qui sort, puis l'autre va chercher d'autres. Hugo Dumas est allé chercher d'autres témoignages de ceux qui n'aiment pas ou qui ont été qui font pas partie du camp de Pascal Nadeau. Là.
Ouais. Moi, ce que j'attends de voir dans le Journal de Montréal, selon ce qui a été dit dans la presse...
Non, mais on ne traite pas un employé de cette façon. Vous irez lire le dernier rapport annuel de Radio-Canada et de CBC. En passant, c'est 7600 employés. Là. C'est pas une petite organisation. Je pense qu'elle... Une société d'État de la trempe de Radio-Canada, un devoir d'exemplarité. Et ce que j'allais pour dire, allez voir le dernier rapport annuel, là. Et les employés, là, c'est la grande priorité de Radio-Canada. Ben là, il y a eu un manquement grave dans la façon dont on traite cette affaire-là. Comment, justement, on peut réserver un tel sort à une dame, une femme, très aimée des Québécois, chef d'antenne, qui a, pendant 33 ans, a donné tout ce dont elle était capable de façon très loyale à une entreprise, à une organisation comme Radio-Canada. Moi, je trouve ça innommable. Parce qu'il y a plusieurs choses qui me choquent dans cette histoire-là. C'est le fait que cette femme doit s'excuser d'avoir été exigeante et rigoureuse. Moi, il y en a ras-le-pompon des femmes qui sont obligées de s'excuser dans leur vie professionnelle, d'être rigoureuse et d'être exigeante. Elle l'a dit, Pascal Nadeau, faut éviter de confondre rigueur et rigueur, par exemple, et harcèlement. Tu peux être rigoureuse, être exigeante, puis oui, des fois, ça t'arrive de monter le ton. Puis là, dans cette histoire-là, ce qui se passe, c'est qu'on ne connaît pas le fond de l'histoire. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait de si grave, de si répréhensible pour mériter le traitement médiatique qu'elle mérite? Et deuxièmement, pour être congédiée, pour avoir été congédiée, ça n'a aucun sens.
On le sait un peu. À cause des témoignages des uns et des autres, on commence à savoir qu'il y a eu un peu de dénigrement, mais que c'est pas allé jusqu'au mépris et que ce n'était pas ciblé.
Mais t'as-tu vu le rapport? Moi, je l'ai pas encore
non,
vu,
mais
le rapport.
Non, justement, le rapport, elle non plus, elle l'a pas vu.
Mais c'est ça qui est le pire,
Et en plus, le comité d'arbitrage, 2 ans après les faits. 2 ans après les faits. Hey, écoute, moi, quand tu dis Radio-Canada est prêt avec une patate chaude depuis une semaine. Bon. Pourquoi? Alors, il y a des raisons légitimes derrière ça. Avant, tu voulais accuser une vedette de la télévision ou un patron, et puis tu étais pris tout seul à faire une preuve, à monter une preuve. Tu avais 1000 fois le temps d'être envoyé, tu avais 1000 fois le temps d'être ostracisé ou démis de tes fonctions avant que ça puisse vraiment arriver. Alors, ils se sont dit, on va faire un processus en béton pour protéger ceux qui font des dénonciations qui sont peut-être justifiées. Mais pourquoi un processus avec un critère? Pourquoi tu tiens pas compte, par exemple, des plaintes de tout le passif ou l'actif des employés encore? Ça, parce que eux, ils disent, on a un processus, on a une règle, on a une loi. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Ouais. De qui on parle? Ouais. Si cette personne-là, en 30 ans, elle n'a jamais eu d'accusation, est-ce qu'elle peut avoir le bénéfice du doute?
Voilà. Mais c'est pas ça, exactement, ce qui se passe. Ton commentaire me fait réaliser à quel point tout ce que cette femme-là a réalisé sur le plan professionnel, c'est comme si c'était balayé du revers de la main. C'est comme du jour au lendemain, c'est 33 ans au service de Radio-Canada. Là, c'est comme si, tiens, on balaye ça sous le tapis. Mais là, on crée un doute parce que la stratégie utilisée par Radio-Canada fait en sorte que ça crée un doute dans notre esprit. Parce qu'il y a plusieurs non-dits dans ce dossier-là. Les non-dits, c'est pour quelle raison exactement on l'a congédié? Est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Ah, ça c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. De faire, en plus, planer le doute.
Mais oui!
Et ça, c'est pendant 2 ans. Et ça, je trouve ça affreux et abominable. On comprend aussi que, avant, il fallait que tu fasses une preuve hors de tout doute que la personne était coupable. Maintenant, avec le mouvement MeToo puis le mouvement comme dans celui-là d'anti-harcèlement, on se dit attends, on va protéger les dénonciateurs. C'est correct ça, c'est parfait puis il fallait le faire. Mais au point où on a maintenant, on génère des doutes sur une personne sans lui donner d'explication, sur une durée impossible, sans lui donner le droit de réponse. En l'expulsant, en lui coupant son salaire, puis en lui demandant de revenir en se taisant.
Puis ajoute à ça, elle doit apprendre, ajoute à ça, probablement qu'elle apprend ce qu'on lui reproche en lisant soit Hugo Dumas ou Richard Therrien dans la presse ou dans le Soleil.
Il y a ça aussi.
Non, mais moi, je trouve ça, c'est innommable, c'est odieux, c'est indigne de ce que de Radio-Canada.
Non, mais qu'il y ait des camps, là, des clans là, à l'intérieur d'une salle de nouvelles, personne ne va être étonné de voir des gens qui sont pas contents, qui ont été témoins d'eux, mais...
Oui, là-dedans, il y a plein de gens qui ont une personnalité, hein. Mais regarde.
Non, mais je comprends, moi, je veux dire, qu'il y a du monde qui a du caractère, puis que ça déplaît, tu sais, que ça dérange. C'est vrai. Puis à une époque, même, c'était peut-être dépassé. Mais... Depuis les dernières années, là, que tu arrives avec une plainte venant d'un tiers, puis la procédure, puis oublions le fond.
Une plainte anonyme venant d'une tierce personne.
Moi, je me dis tout le temps, j'oublie le fond. On ne connaît pas le fond comme tel. Mais la façon dont c'est géré par Radio-Canada...
C'est pas fort, là. C'est vrai. Non, c'est
ça. Là, tu laisses planer plein de doutes si vous saviez que, puis regardez bien ce qui se passe là, puis bon.
Radio-Canada, Radio-Canada joue ça 100% défensif, là. Et là, ils osent nous dire, on l'aurait jamais congédié. Notre rapport, il est sérieux. On n'aurait jamais congédié Pascal Nadeau si on n'avait pas des motifs sérieux de le faire. OK, mais expose-moi tes motifs. Et là, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, Pascal Nadeau est obligé de demander l'arbitrage accéléré parce que son arbitrage sondage avait été entendu seulement en septembre 2022.
C'est ça. Mais pendant ce temps-là, souris à la caméra, par exemple.
Oui,
pendant ce temps-là, souris à la caméra. Si Radio-Canada pensait qu'il allait sauver leur image en mettant en place un processus blindé, ben là, je pense qu'ils vont devoir réviser leur position.
Bien, merci, cher commissaire. À demain.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.